Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Amen. Alléluia, merci pour le passement, frères et sœurs. Est-ce que vous faites ça de temps en temps le matin, chez vous? Regarde ton miroir et puis tu te prêches à toi-même et tu prophétises sur toi-même. La prophétie, c'est de passer commande et attendre la livraison. Je veux redire ça. La prophétie, c'est lorsque Dieu passe commande dans ta vie et il attend la livraison. C'est pas grave, pensez à ça dans la semaine. Il est bon de vous voir ce matin. Il est bon de vous voir souriant. Il est bon de voir les gens de Saint-Denis, de Saint-Paul. Bienvenue. Est-ce que l'église peut accueillir fort les gens de Saint-Denis, de Saint-Paul, du Nord, de Saint-Benoît, Sainte-Rose, Mafate-les-Bains, il y en a beaucoup ici ce matin. Je suis vraiment honoré de vous avoir ce matin. Je suis touché par les dizaines de SMS, littéralement dizaines de SMS, d'emails, de messages Facebook et Twitter qui m'ont été envoyés depuis vendredi soir pour m'encourager aussi à persévérer. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis heureux d'avoir une merveilleuse épouse, de merveilleux enfants, des amis, une église. La vie est belle lorsque Dieu est Seigneur. Lorsque Dieu n'est pas Seigneur, la vie n'est pas belle. Donc ce matin, je vous encourage à ouvrir vos cœurs. J'ai un message, j'espère, à vous bénir. Après, nous prierons pour tous les enfants et les parents qui vont venir donc offrir leur enfant entre les mains de Dieu. C'est un moment pour nous important, en particulier, nous prenons vraiment ça au sérieux. Donc ce matin, vous avez devant vous un jeune pasteur qui est conscient plus que jamais du besoin que j'ai de la présence de Dieu. Je me sens aujourd'hui extrêmement, pas disqualifié, mais pas forcément à la hauteur de prêcher ce que je vais emmener ce matin, parce que c'est un message qui n'est jamais facile à emmener, parce qu'on se sent, bien sûr, nous-mêmes, en tant que prédicateurs, Steve, je sais, pense la même chose, on se sent criblé par la parole de Dieu avant même de la porter. J'espère en tout cas, sinon ce n'est pas important. Donc sur vos écrans ce matin, j'ai une question simple à vous poser. Mais à quoi ça sert la famille? Au moment où je vous parle, les hommes politiques osent prétendre que les familles monoparentales sont des meilleures idées, que les familles sont le modèle de Dieu. Et d'autres pensent que des familles homosexuelles sont des meilleurs modèles, que les familles sont le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que un plan ou un modèle a failli une fois qu'il faut jeter le modèle. Ce n'est pas parce qu'un principe ne semble pas fonctionner, parce qu'on ne sait pas l'appliquer, qu'il faille jeter le principe. Et ce matin, j'aimerais ramener l'Église à réfléchir avec moi au cœur de Dieu pour la famille. À quoi ça sert une famille? Une famille, ce n'est pas simplement une bonne idée parce que voilà, on veut le faire, parce que bon, c'est pas mal d'être marié. Une famille, c'est le plan de Dieu. La famille vient du cœur de Dieu. La famille, ce n'est pas simplement, voilà, je m'ennuie, donc je vais me marier. D'autres se marient. Je parlais avec un de mes amis la semaine dernière, qui travaille pour la mairie et qui a tous les jours dans son bureau la visite de jeunes hommes qui viennent le voir pour un travail. Et un jour, un jeune homme est venu le voir et lui a dit, voilà, je cherche un travail parce que j'ai pas d'argent, bien sûr, et j'aimerais avoir une vie différente. Est-ce que c'est possible de faire cela? Et mon ami lui a dit, bah tu sais, j'ai pas de travail en ce moment pour toi, donc il m'est pour moi très difficile de pouvoir t'aider. Et le jeune homme a répondu, ok, bah si c'est comme ça, je vais en parler à ma petite copine, on va faire un deuxième enfant. Parce qu'au moins, il y aura l'argent de l'aide de l'État et au moins, on ne sera pas dans la dèche. Ce qu'on va faire, c'est un deuxième enfant, ça va nous aider à passer le cap. Il y a une telle misère dans le monde aujourd'hui, en France, une telle misère dans la façon de penser, que les jeunes sont arrivés à un stade de vouloir faire des enfants pour avoir de l'argent de la part de l'État. Et cela peut peut-être nous choquer. Moi, ça me rend triste. Et je me suis rendu compte cette semaine en priant que Dieu me dit, et tu dois, toi, en tant que pasteur, avec ton épouse et tes enfants, et vous, chrétiens, nous devons d'être des exemples pour leur montrer qu'il y a un autre modèle. Il y a une autre façon de faire les choses qui est bien plus belle, et bien plus puissante, même plus simple que les choix qu'ils font. Et pour cela, il faut que vous et moi, nous sachions ce que Dieu attend des familles. Ce matin, sur vos écrans, la parole de Dieu dit, dans Genèse 2:18, version Semeur, l'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » J'aime particulièrement cette version, « qui soit son vis-à-vis, face à face, pas une aide qui soit sous ses pieds, ni une aide qui soit sur sa tête. » Mais une aide qui soit son vis-à-vis, son complément direct. À quoi ça sert une famille? Ce matin, permettez-moi de vous donner la première raison. Il y en a plusieurs, d'accord? J'en ai choisi que trois ce matin. Trois ce matin ensemble. Il y a trois raisons primordiales ce matin dans notre cœur. Vous et moi, nous devons nous poser les questions suivantes et de vraiment travailler dessus avec sérieux. La première raison est la suivante. La famille est le lieu où la crédibilité est acquise. Ma famille est le lieu, le seul, l'unique endroit, le lieu dans lequel ma crédibilité, celle d'Élodie et celle de mes enfants, la nôtre, celle de l'Église, est acquise. La famille est le bloc, le fondement d'une nation. Si les familles vont mal, la nation ira mal et ce n'est pas en étant de nouvelles lois que les familles iront mieux. C'est en changeant les cœurs que la nation ira mieux. Les chrétiens doivent, nous, vous et moi le premier, nous devons de recommencer à revenir sur la parole de Dieu. En fait, écoutez bien ça, ce que Dieu me dit ce matin, il était quoi, 2h du matin, je priais, je suis à la face de Dieu, je ne pouvais pas dormir, donc j'ai beaucoup passé de temps dans sa parole. Et Dieu me dit, la maison, le foyer, la famille, c'est l'endroit dans lequel je vais écrire une lettre de recommandation pour toi dans l'esprit. Dieu dit, c'est dans la maison, dans le foyer, que Dieu se penche et regarde s'il peut écrire une lettre de recommandation pour que tu sois un succès dans le monde. Si la maison ne fonctionne pas selon Dieu, si je ne suis pas en phase avec Dieu et mon épouse et mes enfants dans la maison, je n'ai pas la crédibilité dans ma maison, alors je peux faire ce que je veux, ce sera toujours superficiel et faux, et par conséquent ma vie sera difficile. Et je ne pourrai pas être une lumière dans le monde comme je le voudrais. Je pourrais en parler de Dieu, je pourrais faire des bons sourires, mais au fond de moi, je sais que ma famille ne va pas bien. C'est pour cela que ce matin, j'ai choisi ce thème, parfois délicat à prêcher et à apporter. Mais je vous encourage, frères et sœurs, je vous supplie, je vous en conjure, ne prenez pas ce message à la légère, honnêtement. Comment est ta vie de famille? À quoi ça sert la famille? Quand tu comprends que le but de Dieu, c'est d'avoir une famille selon son cœur, et que Dieu se sert de la famille pour voir si toi et moi nous sommes crédibles en tant que chrétiens, si nous comprenons ça sans culpabilité, en ayant la passion et le courage de travailler avec toute notre force. Quand un jour j'ai été appelé par le pasteur Mark Brennan dans son bureau avec Elodie, et qu'à l'époque, nous étions vraiment à côté de la plaque en ce qui concerne l'éducation des enfants. Nous ne savions pas comment gérer nos enfants. Nous ne savions pas comment faire grandir Lisa. Anna a eu plus de chance qu'on était plus mature. Mais Lisa, elle a dû passer par des moments difficiles avec nous. Et on ne savait pas. Et un jour, le pasteur Marc, beaucoup d'amour, m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, Bruno, Elodie, il faut que je vous parle. Si dans un an, votre système d'éducation chez vous est toujours le même, vous serez disqualifié du ministère. Et Marc a dit, j'y veillerai personnellement. Il m'a dit, parce que Dieu aime trop son peuple et j'aime trop son peuple pour laisser un couple de pasteurs gérer une église alors qu'ils ne savent même pas gérer leur famille. Et je n'étais pas violent, je ne frappais pas mes enfants, je ne buvais pas de l'alcool à outrance, je n'étais pas dans la drogue, j'avais pas d'autres femmes dans ma vie, Elodie n'avait pas d'autres hommes dans sa vie, on était tous ensemble, c'était superficiellement bien, on sentait que c'était pas le top parce que Dieu n'était pas en train de couler à fond, c'était pas ça, c'était bon voilà, et on s'est dit, et le grand danger qu'on a, c'est qu'on s'est dit par rapport à d'autres, on est moins pire. grande erreur. Grande erreur de se comparer à l'autre. Il y aura toujours pire que toi, mec. Mais il y aura toujours mieux que toi aussi. Et le standard, c'est la parole de Dieu. Et le pasteur m'a dit beaucoup d'amour. Si tu ne travailles pas sur ton éducation, toi et ta femme, j'y veillerai personnellement que tu sois disqualifié du ministère. Tu ne toucheras pas le peuple de Dieu si tu ne sais pas être crédible dans ta maison. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes tous silencieux. C'est un bon message d'encouragement ce matin. Ça veut dire que si moi et Elodie, nous pouvons passer par le feu de Dieu pour changer, et nous changeons tous les jours. Et si vous et moi, nous sommes toujours dans le ministère aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a approuvés. Si Dieu nous a approuvés, ça signifie qu'il peut approuver tous ceux et celles qui font vraiment les efforts qu'il faut faire. Dans 1 Timothée 3, sur vos écrans, la parole de Dieu dit « Or, on dit, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. Cette parole est certaine. » Verset 4, « Qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ?» Alors ça, je l'ai mis pour moi, pour vous montrer que c'est moi le premier qui doit passer par là avec le pasteur Steve et le reste de l'équipe pastorale. Mais ça concerne aussi tous ceux et celles qui aimeraient briller dans le monde. Qui veut briller dans le monde? J'espère pour vous, sinon c'est une petite ambition. Quelqu'un a dit un jour, celui ou celle qui a une ambition pour Dieu doit avoir la plus grande possible. Rien n'est plus pire pour un chrétien d'avoir une petite ambition pour Dieu. Tu viens, tu dis, je serai un grand Dieu, mais j'ai une petite ambition. T'as un souci, mon ami. Si tu sers un grand Dieu et une grande ambition pour qu'il ait sa grande puissance en action pour toi. Moi, j'aimerais briller de mille feux. J'aimerais briller de tout mon cœur. J'aimerais vraiment montrer au reste du monde que Dieu est mon Dieu. Et pour cela, il faut que ma famille soit le lieu où ma crédibilité, où ta crédibilité, où celle de Lodi est acquise. Non pas par de belles paroles, mais par le test de tous les jours. Et ce qui est beau dans une maison, c'est que dans une maison, tu es testé tous les jours. Dans la maison, seuls ceux qui n'aiment pas les tests fuient la maison, mais ceux qui aiment les tests parce qu'ils comprennent que les tests font grandir, restent chez eux et se tiennent droit en disant « Chérie, voici le vrai moi. » Si tu es marié, regarde ton épouse et dis « Chérie, voici le vrai moi. » Oula, d'accord, parce que c'est vrai, moi le premier, souvent on est là, enfin j'ai changé maintenant, mais avant j'étais comme ça beaucoup, j'étais à la maison quelqu'un et à l'église un autre, et je prêchais mes tripes le dimanche, et j'entrais chez moi, j'étais démoralisé, j'étais pas un bon mari envers ma femme, en tout cas celle que Dieu voulait, celui que Dieu voulait que je sois pour elle. Et Dieu m'a montré qu'il fallait qu'on change. Et vous savez, est-ce que vous croyez que la famille est un point important ce matin? Ok, aidez-moi. Est-ce que vous croyez que la famille est vraiment importante? Est-ce que vous croyez que la famille est vraiment, 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 vraiment importante? Amen. Alors combien d'efforts nous faisons pour la famille? Ça s'appelle un ascenseur émotionnel. Je te laisse monter et puis pouf, je coupe la corde. Combien d'efforts est-ce que réellement, en tant que mari ce matin, en tant que femme, maman et papa, je me mets vraiment à réfléchir sur l'état de ma famille et je me rends compte à quoi ça sert ma famille? Combien de fois je vais vraiment m'asseoir et parler? Le nombre de gens qui nous appellent, et le dit et moi, en me disant « mon couple va mal, mon mari ceci, mon épouse cela, mes enfants ceci », et je les regarde en disant « mais le nombre de messages qu'on a prêchés, le nombre de fois on vous encourageait, je ne suis pas meilleur que toi, j'ai le même livre, la même source que toi, c'est la Bible, j'ai le même Esprit Saint que toi, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi, et si la Bible et le Saint-Esprit travaillent dans ton cœur, si tu es volontaire pour faire les efforts, tu changeras toi aussi ». La première raison ce matin, c'est que la maison, le foyer, la famille, c'est le lieu dans lequel je reçois ma crédibilité. Amen. Le deuxième endroit ce matin, deuxième point, la deuxième raison pour laquelle la famille c'est important, à quoi ça sert une famille? Restez s'il vous plaît très focalisés, concentrés. C'est que la famille est le lieu de refuge contre les tempêtes. C'est un mensonge que de croire que la vie chrétienne te sépare des problèmes. C'est faux. Un jour, on m'a dit, Bruno, prie pour que mes problèmes disparaissent. J'ai fait, je peux pas. Ça peut arriver, hein, d'accord, ça peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est pas la règle, c'est l'exception. En général, tu ne pries pas pour que le problème disparaisse, tu pries pour que Dieu apparaisse face au problème. Quand tu pries, Dieu vient avec toi face au problème. Quand tu ne pries pas, tu es seul face au problème. Ou avec une bouteille de gin tonic, comme tu préfères. Mais quand tu pries, Dieu vient avec toi. La maison, c'est le... Écoutez bien ça, c'est important. La maison, c'est le lieu dans lequel la femme, les enfants... se sentent en sécurité. Si vous n'êtes plus marié aujourd'hui, vous êtes divorcé, ou si vous êtes une femme seule, ou un mari, ou un homme seul, ne soyez pas inquiets, mes amis. Dieu n'est pas en colère avec toi. Dieu veut te donner une nouvelle chance. Il veut t'aider à avoir une famille, un foyer, une vie réussie. Tu n'as pas tout raté. Et si tu penses que tu ne veux plus te marier, c'est ton droit. Si tu ne veux plus te marier, sois un exemple en conduite et aide les autres familles à être celles de Dieu. Alors il y a une famille, c'est un lieu contre les tempêtes. Tout le monde dit contre les tempêtes. Lisez avec moi ce passage-là dans Ecclésiaste 4, verset 12, tiré de la version de Le Message, magnifique. Écoutez bien ça. Il dit, par toi-même seul, tu n'es pas vraiment protégé. Avec un ami, tu peux affronter le pire. Si vous pouvez être à trois. Une corde à trois brins ne se casse pas facilement. Ça parle de ce genre d'homme qui se rend compte que tout seul, il peut pas. Tout seul, il va tomber, chuter, il va se fracasser. Tout seul, il va être seul, déprimé, il va faire plein de bêtises. Ou une femme, ça va être dur. Je sais qu'il y a des gens qui sont seuls ce matin. Et mon cœur est vraiment brisé pour vous. Mais je prie pour que vous puissiez trouver la personne que Dieu a pour vous. Mais ce passage nous prouve que Dieu nous a créés pour les gens. Dieu nous a créés pour les relations. Si tu existes pour les relations. Un vrai chrétien ne peut pas être un chrétien seul. Les gens qui te disent, moi je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église, ce ne sont pas des chrétiens. Tu ne peux pas me dire, imaginons que Steph ou Cédric ou Philippe m'invitent tous les dimanches à manger chez eux, mais tout le temps ils me disent, tu manges chez moi, mais sans ta femme et tes enfants. Alors, ça va aller une fois, mais deux fois, j'ai attendu un problème, qu'est-ce qu'elle a ma femme? Ah, mais tu sais, moi je t'aime toi, mais pas ta femme. Le nombre de chrétiens qui disent, moi j'aime Dieu, mais pas l'église. Il y a trop d'hypocrites dans l'église. Et moi, je dis, mais viens, il n'y aura rien de plus avec toi. Pas de problème. On aime tout le monde, on prend tout le monde. Ouais, je sais, mais c'est la vérité. Le proverbe 14, 26 a été un verset qui m'a secoué profondément hier soir. Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Je vais relire parce que ça tape. Celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance. Et il, remarquez, il avec un petit i, il parle de l'homme ou de la femme. Celui qui craint l'Éternel sera un refuge pour ses enfants. Rien n'est plus beau lorsque tu te lèves le matin et tu sais en tant que mari ou en tant que femme, tu as un refuge pour tes enfants. Ils savent qu'à tes côtés, ils ne craindront rien. Ils savent que si quelqu'un les attaque ou si quelqu'un les touche, tu sortiras pas seulement bec, les ongles, mais le bazooka et tout ce qu'il y a après. Si quelqu'un touche à ma famille, il touche à mon Dieu et mon Dieu me couvrira. Vous savez, quand une femme vient me voir et elle me dit, mais tu sais, pasteur, mon mari, par exemple, me bat. Il y a, en Steve et moi, une sainte colère qui se manifeste. On aime le monsieur, on a envie de l'aider et on lui donnera une chance. On lui dit, écoute mon ami, si tu as un problème avec la violence, viens nous voir, on va t'aider. Mais si tu la touches encore une fois, non seulement Dieu te corrigera, mais aussi nous, on va créer un gang pour toi. On va tellement te faire mal que tu comprendras la douleur pour savoir qu'on ne fait pas ça. Je suis très sérieux ce matin. Parce que si les sœurs de l'église ne savent pas qu'elles ont un refuge ici, à nos côtés, si elles ne savent pas qu'il y a des hommes de Dieu ici qui sont prêts à les protéger, alors on ne sert à rien. Si dans une nation, le monde, la France ne sait pas que l'église existe pour s'opposer non pas aux homosexuels, mais à l'homosexualité, l'église ne sert à rien. Non, il n'y a pas tous les droits sur terre. Il y a des principes fondamentaux. Et l'Église, l'homme qui connaît l'Éternel, a une assurance solide. Et il devient un refuge pour les autres. D'abord sa famille. Il est temps pour vous et pour moi de nous lever, quel que soit l'âge et la condition et le passé. Le passé n'a pas la puissance de ton présent. Parce que le passé, tu ne peux pas le changer. Je priais hier et Dieu me dit, Bruno, est-ce que tu sais que même moi, Dieu, je ne peux pas changer le passé. Mais je peux changer le présent. Et ce matin, je ne juge personne. Je vous encourage à vous réveiller et à m'aider, moi, le pasteur de l'église, avec le pasteur Steve et tout le reste, à être des hommes de confiance, des hommes qui prennent le pas sur les choses mauvaises. Quelqu'un a dit un jour une phrase qui m'a toujours secoué. Il a dit « Le mal triomphe parce que les gens de bien ne font rien. » Lorsque tu vois le mal, quelle est ta réaction ? Moi, je décide de craindre l'Éternel. Et avoir une assurance solide. Et je déclare en ce lieu ce matin à Hosanna, aucun enfant, ni aucune femme, ne sera abusé. Si vous le cachez, c'est votre problème. Et si vous le savez, venez nous voir. Nous contacterons les gens qu'il faut. Nous vous aiderons. Nous aiderons même ceux qui commettent des crimes. Si quelqu'un a commis un crime, on sera là pour t'aider. On t'accompagnera. Si le crime vaut la prison, on sera là avec toi à te visiter en prison. Je ne te mens pas. Je ne te cacherai pas la vérité. Mais il est hors de question que nous vivions les choses en nous bouchant les yeux. Lorsque nous avons un Dieu qui voit tout, nous devons être des lumières dans le monde afin que les gens sachent qu'ici à Hosanna, il y a un peuple qui est un refuge pour ceux qui souffrent. À quoi ça sert une famille, hein, pour avoir un refuge? Marie, ce matin, je sais ce que vous dites. Tu es dur en ce moment. Moi, le premier, je prends ça au sérieux. Moi, le premier, je dois me mettre en devant le trône de Dieu tous les jours. Et ce qui oblige, tu ne peux pas faire ce que la parole de Dieu enseigne si tu n'es pas humble aujourd'hui. La vraie humilité, c'est dépendre de Dieu. Oublie tout le reste. Si tu veux une simple définition, l'humilité, c'est quand tu dépends totalement de Dieu. Quand tu dépends totalement de Dieu, tu as toute sa force et tout son backup. Tu as toute sa puissance derrière toi. Et je dis, je suis avec toi. Il y a 5 ans de cela, où mon pasteur m'a dit, Bruno, si tu continues comme ça, tu ne seras plus pasteur. J'y veillerai personnellement. Et je le remercie aujourd'hui du fond du cœur. Qu'avons-nous fait, le dis-moi? Vous savez ce qu'on a fait? On a acheté des dizaines de livres. Littéralement, non, pas dizaines, mais plusieurs livres. 10 ou 11 livres. On les a lus. Je les lis encore aujourd'hui. Je lis tous les jours quasiment quelque chose sur l'éducation, sur mon enfant. Elle le dit pareil. Elle regarde, elle lit sur le couple. On lit des livres sur le couple. On en parle, on regarde. Est-ce qu'on grandit toi et moi? Est-ce que tu me comprends mieux? Est-ce que je te comprends mieux? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on est plus doux, plus passionné, plus romantique? Est-ce qu'on se comprend mieux? Et nos enfants, est-ce qu'ils nous voient bien? Est-ce qu'ils nous regardent? Ils sont fiers de nous? Est-ce qu'ils se sentent glorieux à côté de nous? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent nous faire confiance? Est-ce qu'ils nous font confiance? Est-ce qu'ils nous parlent? Est-ce qu'ils nous ouvrent leur cœur? Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous révèle, est-ce qu'il nous encourage, est-ce que je suis un refuge pour ma fille, pour mes filles, est-ce que j'ai un refuge pour ma femme, j'allais dire pour mon fils, bizarre, est-ce que je suis un refuge pour tout ça, est-ce que j'ai un refuge pour l'église? Et moi, en tant que pasteur aujourd'hui, je me dis, Seigneur, mais c'est impossible, on est plusieurs centaines de membres à l'église, comment je vais faire? Il me dit, compte sur moi, mais décide d'être un homme qui se tient à la brèche pour le peuple de Dieu et soit un refuge pour tous ceux et celles qui ont besoin. Alors mon ami, je ne peux pas m'occuper tous les jours, je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas tous les jours boire un café avec tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est m'assurer qu'il n'y a pas d'injustice. Premièrement, la famille est le lieu dans lequel je peux acquérir ma lettre de crédibilité de la part de Dieu. Quand je sors de ma maison, je sais que je suis le même dans ma maison et le même en dehors de ma maison. Et que ma femme me dit, ce que vous voyez en Bruno aujourd'hui, c'est le Bruno dans la maison, et le Bruno sur un vélo, et le Bruno dans une montagne, et le Bruno à l'église, c'est le même. Et elle peut me dire, oui, amen. Amen. 4 ans de travail, elle est témoin, ça avait témoin. 4 ans de travail pour changer radicalement mon cœur. Il a fallu des semaines de travail, pas juste un message par dimanche. Il a fallu que je bosse sur mon cœur. Et vous pouvez faire de même. Et vous devez faire de même. Deuxième chose, ce matin, on a vu que pourquoi la famille, mes amis, la famille, celle de Dieu et la nôtre, c'est un lieu de refuge contre les tempêtes. Jamais, jamais, jamais nous ne devons être capables de dire à nos enfants, va trouver un refuge ailleurs. Vous savez, j'ai fait un petit calcul rapide. la semaine dernière, mais je pensais au nombre de temps que nous passons avec nos familles, et je me suis dit pourquoi est-ce que souvent on a du mal à être ce lieu de refuge là, parce que on oublie que la famille doit être l'endroit prioritaire dans lequel nous mettons tous nos efforts pour que ce soit réussi. Et donc quand les gens viennent, ou en tout cas quand les gens rentrent chez eux parfois, la maison est tellement pas de, selon Dieu, qui n'ont pas envie de rester. Et moi, je crois sincèrement que vous et moi, nous devrions travailler dur pour que la maison devienne le lieu où les gens ont envie de rester. Où ta famille, ta femme a envie de rester. J'aimerais dire cette phrase-là que j'ai notée ce matin. Pour les maris, pour les pères. Si vous n'êtes pas marié, si vous êtes une femme seule, ce passage peut être pour vous ce matin. Cette phrase peut être pour vous. Mais je crois sincèrement que c'est le papa, le mari, le père, qui a dans sa main la télécommande qui gère le thermostat spirituel de la maison. C'est le père qui décide si sa famille est en feu. C'est le père qui décide si sa famille aime Jésus. C'est le père qui décide si sa famille est passionnée par le plan de Dieu. C'est le papa qui décide ça au départ. S'il n'y a pas de papa, c'est la maman. Vous allez me dire, oui, mon mari n'est pas chrétien. Mais vous priez pour lui. Et si la femme ne te suit pas, il est de ton devoir d'enseigner à ta femme et à tes enfants. Tous les jours que Dieu fait, et le dit, moi, nous nous efforçons d'enseigner à nos enfants comment réagir. Hier, j'écrivais sur mon mur Facebook un petit message et je parlais de comment nos foyers sont les fondements de la société. Et j'expliquais qu'il y avait à mettre en place dans nos maisons la liberté. Après, j'ai dit l'amour. La paix, le respect et la joie. Et quelqu'un m'a répondu gentiment, il m'a dit, pour moi le respect vient avant. C'est impossible. Si vous mettez l'exigence du respect en priorité, vous allez devoir mettre des règles en place en priorité. Mais si dans vos maisons, dans nos maisons, nous mettons en priorité l'amour de la liberté, et que sur cette liberté-là, vous construisiez des relations vraies parce que seule la liberté permet l'amour. Je vais redire ça, seule la liberté permet l'amour. S'il n'y a pas de liberté, l'amour est forcé. S'il est forcé, ce n'est pas de l'amour. Une fois que l'amour est naturel, que l'amour est voulu, que l'amour est désiré, que tu choisis d'aimer, tu sens que la paix s'installe parce que l'amour vrai établit la paix. Et une fois qu'il y a la paix, il est facile de se respecter. Facile de se dire, voilà pour elle, voilà pour moi, je te respecte. Et quand la paix est là, la joie se manifeste naturellement. Tout le monde me suit ou pas? Alors vous pouvez et nous devons travailler là-dessus. Et je termine sur le troisième point ce matin. Troisième point, et la famille est le lieu de formation pour la vraie vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que souvent, nous donnons l'enseignement. Et la formation, nous les remettons entre les mains des instituteurs, des institutrices et des professeurs. Ce n'est pas leur rôle total d'éduquer vos enfants. Ils doivent compléter l'éducation. Ils peuvent renforcer les principes. Et Dieu sait comment les enseignants d'aujourd'hui ont besoin de beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de prières, parce que c'est vraiment chaud pour eux. Mais ce n'est pas au rôle des profs d'éduquer mes enfants. C'est à moi. Et à Elodie. Oui, non, tu me suis ou pas? Tu me suis? Est-ce que vous savez qu'en moyenne, un enfant passe à peu près 1000 heures devant la télévision en une année? C'est-à-dire entre 3 et 4 heures par jour. Pas tout le monde, mais en moyenne. Cela signifie que dans sa vie, il aura passé 9 ans devant la télévision, dans une vie. 9 ans entiers. Les enfants de l'église viennent à l'école du dimanche le dimanche. Et ils passent à peu près 1h30 à l'école du dimanche. J'ai fait le calcul, au bout de leur vie, ils auront passé 8 mois à entendre la parole de Dieu. 8 mois à entendre la parole de Dieu à l'église et 9 ans devant la télévision. D'après vous, qui a le plus d'influence? La télévision ou la parole de Dieu? C'est pour cela que les parents doivent comprendre que la maison est le centre de formation. C'est dans cette maison-là que tout se joue.